Studio Tamani, voici nos informations en français.
Le bras de fer entre les enseignants et le gouvernement malien se poursuit. Le préavis de grève de 23 jours annoncé par la coalition syndicale des enseignants à partir du 15 avril reste maintenu. L'insécurité au centre du pays inquiète l'ONU. Deux experts des Nations Unies ont mis en garde le gouvernement malien et la communauté internationale contre une montée des conflits intercommunautaires à Mopti. L'association des jeunes ressortissants de Kita se mobilise pour la promotion de l'éducation des filles et la réduction de l'émigration et l'orpaillage traditionnel. Des activités culturelles, artistiques et sportives ont été organisées ce week-end à cet effet. À la présentation de cette édition, Mouhamadou Touré, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'école malienne est restée paralysée après les congés de Pâques qui ont pris fin hier. Les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 viennent de déposer un nouveau préavis de grève de 23 jours à compter du 15 avril prochain. Ce bras de fer qui dure depuis plusieurs mois entre le gouvernement et les syndicalistes devient de plus en plus compliqué. Les détails avec Idrissa Sakou.
Suite à la non-satisfaction des doléances, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont procédé au dépôt de nouveaux préavis de grève de 23 jours, soit 552 heures sur la table du ministre du Travail de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Cette fois, les enseignants durcissent le ton, rompent les négociations et promettent de retenir les notes pour montrer leur détermination dans la quête de la satisfaction de leurs doléances. Selon le collectif des syndicats d'enseignants, la reprise des négociations est liée au déblocage des salaires. Pour répondre aux différentes inquiétudes des parents d'élèves sur l'éventualité d'une année blanche, la coalition syndicale est claire. La couleur de l'année dépendra du gouvernement. Cette question ne nous concerne pas pour le moment. C'est juste nos points de revendication. Les informations faisant croire que le gouvernement tente de contourner les enseignants pour demander la progression dans les programmes auprès des directeurs de CAP ou d'académie ne constituent pas non plus une crainte aux yeux des grévistes. Ils affirment que les directeurs d'école, d'académie et de CAP sont aussi des enseignants en grève comme les autres et ne pourront pas faire cela. Ce mouvement de grève des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 a été suivi par d'autres mouvement de grève de l'Association des élèves étudiants du Mali.
Pour certains observateurs, la position adoptée par le collectif des syndicats des enseignants peut hypothéquer l'année scolaire. Selon Souleymane Drabo, journaliste consultant, les enseignants doivent revoir leur stratégie pour répondre à leur vocation première, qui est de donner la connaissance aux enfants afin de permettre au gouvernement de bien traiter leurs revendications. Souleymane Drabo est joint au téléphone par Idrissa Sakou.
Les syndicats sont entrés dans un cycle de radicalisation qui est inquiétant, je veux dire, aujourd'hui, parce que les débrayages ont commencé depuis décembre. Donc, c'est un second trimestre de l'année qui a été pratiquement perdu et qu'on n'aura peut-être plus tellement de temps pour à rattraper si les cours doivent reprendre aujourd'hui, encore que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un radicalisme qui est assez dangereux, qui menace franchement l'année scolaire. Moi, je pense que la lutte syndicale, elle est faite d'avancer et puis de recul. C'est-à-dire que c'est de la stratégie. Les syndicats et l'enseignant devraient faire un pas en arrière pour permettre à l'État de satisfaire au moins un minimum de leurs revendications, ce qui est déjà le cas. Donc, qu'il fasse un pas en arrière pour pouvoir sauver l'année. Parce que la vocation des anciens, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre aux enfants les connaissances et préparer l'avenir. Ce n'est pas d'occasionner des années blanches.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. La situation sécuritaire dans le centre du pays inquiète de plus en plus. Deux experts des Nations Unies ont lancé ce jeudi une mise en garde au gouvernement malien et à la communauté internationale, leur demandant de s'attaquer immédiatement à la grave montée de violence au centre du Mali. Le point avec Adama Amadou Haïdara.
L'attaque la plus meurtrière en 2019 est celle d'Ogoussagou, avec plus de 160 morts, de nombreux blessés, dont des enfants et des femmes enceintes. Selon l'UNICEF, les premiers rapports des services médicaux locaux indiquent qu'un tiers des victimes étaient des enfants. Le porte-parole du fonds Christophe Boulirac a précisé cette semaine à Genève que plus de 31 enfants ont été blessés au cours de cette attaque. Selon lui, les blessures subies par les enfants sont principalement des blessures par balles, des brûlures et des fractures. L'agence onusienne a déjà envoyé des kits médicaux d'urgence contenant des médicaments et du matériel, y compris des fournitures de premiers secours pour couvrir les besoins de 10 000 personnes pendant 3 mois au centre du Mali. Mali. Deux semaines après cette attaque, la panique se vit dans beaucoup de villages du centre du pays. Au moins 4 localités ont reçu la visite des hommes armés qui les ont sommés de quitter leur village, faute de quoi ils vont tous les massacrer. Ces localités sont entre autres les hameaux de Kéré, Kanga, Goura et le village de Ségué, tous dans le cercle de Badjangara, dans la région de Mopti. Malgré les messages et appels au calme du gouverneur de Mopti, les habitants ont commencé à quitter les lieux. Ces nouveaux incidents sécuritaires inquiètent également la mission de l'ONU au Mali. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies met en garde les acteurs de ces crimes et réaffirme sa volonté de ne ménager aucun effort pour œuvrer à leur identification, leur arrestation et leur jugement. Au moment où ces attaques ont fait plus de 59 000 déplacés dans la région et une enquête en cours doit situer les responsabilités et les auteurs de ces crimes, l'ex-première dame Adamba Konare a adressé un message conciliateur et porteur d'apaisement aux Maliens. Elle a également demandé d'ériger un monument à la mémoire des victimes d'Ogoussagou.
Et pour certains observateurs, c'est l'absence de l'État qui favorise la formation et la présence des milices au centre du pays. Le politologue Boubacar Bokoum estime que la cessation des hostilités est forcément conditionnée à la présence de l'État dans les localités en proie à l'insécurité. Boubacar Bokoum, politologue, est joint au téléphone par Fatia Tara.
L'État est absent, ils sont dans les déclarations, ils sont dans la communication. Et que l'État s'engage à des vraies solutions.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire depuis le processus de désert, c'est-à-dire de renforcer une présence réelle de l'État sur le terrain et de désarmer toutes les milices sans exception sur le terrain. Et cela n'a pas été fait. Parce que le DDR aurait dû servir de cadre pour que toutes les milices qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont armés de façon illégale, déposent les armes. Maintenant, si l'État ne s'est pas donné les moyens d'aller au désarmement physique de tous ceux qui sont sur le terrain avec des armes, le simple fait de déclarer que cette association est dissoute, elle reste juste une déclaration. Ça ne change rien sur le terrain. Et les communautés vont continuer à se défendre. Qui va accepter d'être désarmé et d'attendre que ce soit attaqué par l'autre? Donc, c'est théoriquement, ça ne tient pas la route. Il va falloir que l'État s'implique mieux que de faire seulement des déclarations de dissolution. Que l'État soit réellement présent pour gérer l'aspect de la justice.
Promouvoir l'éducation des filles est un des principaux défis à relever dans la commune rurale de Tabanka, cercle de Kita. Pour faire face à ces questions, l'association des jeunes ressortissants de la localité organise chaque année des activités culturelles, artistiques et sportives dans l'un des villages de la commune. La 16e édition a pris fin ce week-end. De Kita, suivez le reportage de notre correspondant Fode Moussa Diakité.
C'est le village de Katabantankoto, situé à environ 50 km de la ville de Kita, qui a abrité cette 16e édition. L'objectif est de protéger la nature, rassembler les jeunes et lutter contre l'analphabétisme dans la commune. Baka Dambélé, de l'association des jeunes ressortissants de la commune rurale de Tambaka, nous parle des activités menées par l'AJRCT.
Le reboisement de 700 plants, l'implantation de 3 pompes manuelles et la rentrée passée, l'association a pu distribuer plus de 700 kits scolaires dans les différentes écoles de la commune de Tambaka.
Selon la représentante des femmes du village de Katabantankoto, Hawa Dambélé, il faut mettre un accent particulier sur l'éducation des filles.
Si on parle de scolarisation, on doit parler aussi de la scolarisation des filles. Il ne s'agit pas seulement des hommes. Les femmes aussi doivent partir à l'école pour étudier. Parce que quand on étudie, ce n'est pas seulement pour trouver de l'emploi. Quand on étudie, c'est bon pour la nation, pour la commune.
Madi Dambélé, enseignant au niveau du secondaire, confirme que l'éducation des filles reste un des grands défis à relever dans la commune.
La plupart des élèves au niveau fondamental abandonnent pour aller soit à leur paillage ou bien partir en aventure. Très peu de filles sont scolarisées ou en tout cas qui franchissent la 9e pour aller au niveau secondaire.
À rappeler que l'agriculture, l'élevage et le commerce sont les principales activités qui font tourner l'économie de la commune de Tambaka. De Kita, Fode Moussa Diakité pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, de nombreux projets à impact rapide ont été réalisés de 2018 à 2019 dans le cercle de Bourem sur financement de l'AMUNUSMENT. Il s'agit entre autres de la réhabilitation de la maison des jeunes et l'équipement de 11 radios pour un montant de plus de 49 millions de francs CFA. L'information a été donnée hier par le maire de la localité lors d'une session. Ce geste humanitaire entre dans le cadre de la restauration de la paix et la réconciliation selon ses organisateurs. Une vague de poussière en suspension assombrit le paysage à Yoroso depuis samedi dernier. Ce phénomène inhabituel inquiète les populations. Les spécialistes de la santé conseillent le port du cache-nez et l'utilisation du beurre de karité. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. C'est dans ta manie.